Delhi, l'infidèle. Chapitre 1. Une porte s'ouvrit lentement, une voix ouatée annonça « Son Excellence, le Marquis Orchiel ». La comtesse Riesini laissa tomber le lorgnon d'écaille qu'elle maintenait sur son nez majestueux, ferma le livre ouvert devant elle sur la petite table à-dessus de Porphyre et sourit aux visiteurs. « Je vous attendais un peu aujourd'hui, Silvio !» Le marquis s'avança, inclina sa taille mince et baisa la main qui lui était offerte. « Vous avez bien voulu me demander de venir vous voir, ma cousine. »« Oui, pour causer un peu sérieusement. Allons, Silvio, ne froncez pas les sourcils. Il faut être raisonnable, mon pauvre enfant. » Un frémissement avait couru sur le visage mat, un peu osseux, et les sourcils sombres, qui formaient un bel arc au-dessus des yeux noirs, se rapprochaient lentement. Don Silvio dit avec effort « Oui, je le sais, mais c'est si dur. Mettre à sa place une autre femme que je n'aimerai pas, que je n'aimerai jamais. Voyons, qu'en savez-vous? L'amour peut venir. » Il dit lentement « Jamais. » Son visage se tendait et, sur le regard lointain, l'ombre de tristesse se fit plus profonde. Il s'était assis près de la petite table et sa main fine, nerveuse, s'appuyait au-dessus de marbre. La comtesse, pendant un moment, considéra le visage aristocratique sur lequel les yeux d'un noir voilé, songeurs et pleins de pensées, répandaient une beauté grave. Puis elle hocha la tête en murmurant « Silvio, Silvio, j'espérais vous trouver prêt à accomplir votre devoir. » Il se redressa d'un mouvement brusque. « Eh bien oui, je le suis, puisqu'il le faut. Mon père se désole en pensant que notre vieux nom pourrait s'éteindre. Raison d'état. J'épouserai votre jeune protégée, Donna Francesca. Aussi bien, elle ou une autre. » Un geste acheva sa phrase. La comtesse lissa d'un doigt lent les bandeaux de cheveux blancs qui encadraient son visage flétri, couleur de rose sèche. Un reproche passait dans son regard doux et sérieux. « Il ne faut pas parler ainsi, mon enfant. Ginevra Campestre est digne d'être aimée et elle a tout pour l'être. Vous avez pu en juger, d'ailleurs, ces deux fois où vous l'avez rencontrée chez moi. » Il dit froidement « Oui, elle est très bien. » « Et quelle charmante qualité morale. Intelligente avec cela, très intelligente. Mais elle est modeste, un peu timide et on ne la découvre vraiment telle qu'elle est qu'en la connaissant très bien. » Enfin, c'est tout à fait la femme que je souhaitais pour vous, Silvio. » Il eut un mouvement des lèvres qui signifiait clairement « Moi, cela m'est égal. » Ses doigts glissèrent un instant sur le dessus de Porphyre, frôlèrent la couverture de soie du livre. Et il dit d'un ton bref « Je désire que Donna Ginevra sache bien que je ne fais, en l'épousant, qu'un mariage de raison. Vous lui expliquerez tout. » Vous lui direz que j'aime ma femme morte comme je l'ai aimée vivante et que personne ne prendra jamais sa place dans mon cœur. À part cette infidélité-là, je serai un bon mari. Vous connaissez mon caractère, vous pourrez assurer à Donna Ginevra que j'aurai pour elle tous les égards dont elle est certainement digne et même sans doute de l'affection quand nous nous connaîtrons mieux. Mais pas de l'amour. Les jeunes filles rêvent à cela d'ordinaire. Je veux loyalement prévenir votre protégée qu'elle n'en trouvera pas chez moi. » Les paupières ridées de Donna Francesca clignèrent un peu sur les yeux d'un brun pâli qui regardait Silvio avec sympathie. « Je le lui ferai comprendre, mon enfant, mais je ne la crois pas du tout romanesque. C'est une petite tête raisonnable qui ne se permet pas beaucoup de rêves, j'en suis certaine. » Pour si peu que je l'ai vue, elle m'a laissé plutôt l'impression d'une nature assez froide. Et ceci me plaît, étant donné mes propres sentiments à son égard et la nature de l'attachement dont je pourrai seulement disposer pour elle quand elle sera ma femme. » Les lèvres de la comtesse, qui s'ouvraient pour une protestation, se refermèrent sans avoir laissé échapper une parole. Quelques minutes de silence passèrent. Un vent chaud soulevait l'essor de linon brodé. Des taches de soleil dansaient sur le tapis bleu de roi qui couvrait entièrement le parquet. Des meubles anciens, frêles et gracieux, se disséminaient dans le salon aux tentures de soie rayées, bleues et gris. Du plafond, peint d'amours et de fleurs au ton passé, une plante laissait pendre ses longues traînes d'un vert argenté après s'être enroulée autour d'une suspension de bronze. Sur une étagère, des livres brochés s'alignaient, les plus récentes productions de l'esprit en Italie et en France, car la comtesse Riesini aimait à se tenir au courant du mouvement littéraire et, avec les marquis Orcella, père et fils, elle était sur ce point la mieux informée dans toute cette petite ville de Rienti et ses environs immédiats. Donna Francesca reprit. « Vous êtes au courant de la situation de fortune des Campestri ?» Le père, tout occupé de ses recherches historiques, a laissé péricliter son bien entre les mains d'un homme d'affaires honnête mais incapable. Sa seconde femme ne lui a rien apporté en dot. La première avait 20 ou 25 000 livres. Ce qu'il en reste, la moitié à peu près, paraît-il, est partagée entre Ginevra et son frère. Silvio eut un geste d'insouciance. Il m'est indifférent d'épouser une femme pauvre. Qu'elle ait seulement un peu de cœur, quelques distinctions, une intelligence moyenne, des goûts simples, qu'elle soit bonne et dévouée pour mon père et sache diriger notre maison, je ne demande pas autre chose. Vous trouverez tout cela en Ginevra, mon cher ami. C'est une enfant très vaillante qui a connu chez elle les durs soucis d'une vie gênée et le contact pénible avec un caractère sec, autoritaire, celui de sa belle-mère. Elle est patiente, travailleuse, énergique, d'une piété bien entendue. Je vous le dis, c'est une belle nature, et elle me paraît tout à fait la femme qu'il vous faut. » De nouveau, le silence tomba entre eux. Silvio, du bout des doigts, caressait sa moustache brune. Son regard assombri se perdait au loin, vers le passé. Il revoyait un frais visage, des lèvres pourpres et rieuses, des yeux bleus si grands, si tendres, et toute cette masse de cheveux blonds qu'on ne savait comment coiffer et que les petites mains d'Hélène s'amusaient souvent à défaire dans la journée pour que son mari pût les admirer, répandus sur ses épaules, sur les robes blanches qu'elle aimait. Il entendait son rire d'enfant, sa voix douce qui prononçait l'italien de façon si amusante. Elle disait avec un sourire espiègle « Caro mio, parle-moi la langue de ton pays si tu veux. Mais moi, j'aime mieux me servir du français, vois-tu, c'est plus facile. » Où étaient-elles les heures radieuses? Où cette grâce, cette beauté, cette joie dont il avait vécu pendant 10 mois? 10 mois de bonheur. Et celle qu'il n'attendait pas était passée. Hélène avait clos pour jamais ses paupières aux longs cils pâles. Sur la bâtisse et les dentelles de sa couche mortuaire, l'or clair de ses cheveux avait été répandu par la main tremblante de l'époux. Cette main, encore, avait étendu le corps raidi sur le velours blanc du cercueil. Un dernier baiser qui se glaçait à cette froideur de mort. Et c'était fini. En ce monde, il ne reverrait plus Hélène, la compagne, l'épouse, qu'il avait chéri avec toute l'ardeur concentrée de sa nature, avec toute la tendresse cachée sous la douceur froide dont il enveloppait ses sentiments secrets. Donna Francesca dit à mi-voix, avec un accent de reproche affectueux, « Silvio, Silvio, je vois à vos yeux que vous revivez toute votre douleur. Il ne le faut pas, mon enfant. Regardez l'avenir, les joies qui peuvent vous être départies encore. Si le ciel vous accordait un fils, ne seriez-vous pas heureux ? » Il répondit avec calme. « Très heureux, c'est mon plus cher désir. » « Et n'aimerez-vous pas la femme par qui vous connaîtrez ce bonheur ?» Il est très probable, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, que je lui donnerai tout ce qu'il m'est possible en fait d'affection. Je ne puis faire davantage. J'espère qu'elle s'en contentera. Mais je désire que Donna Ginevra n'ait aucune désillusion sous ce rapport, et c'est pourquoi je vous demande de lui présenter les choses sous leur vrai jour en allant lui adresser la demande en mariage. « Oui, je le ferai certainement, mon enfant. » Un vieux domestique entra, apportant des rafraîchissements. La conversation changea de sujet. Donna Francesca parlait des derniers livres reçus que Silvio avait lus et sur lesquels il donna son avis avec la finesse d'appréciation, le goût très sûr dont il était coutumier. Puis il se leva, prit congé de sa vieille parente. Celle-ci, retenant sa main entre les siennes, demanda « Alors, j'irai chez les Campestri demain. Oh, demain, non. Ce n'est pas si pressé. Un de ces jours. Un pli barrait son front subitement. La comtesse le suivit des yeux tandis qu'il traversait le salon pour atteindre la porte. Il avait une démarche ferme, élégante, une allure aristocratique et cette façon de pencher la tête qui caractérisait les Orcella. La vieille dame songeait. Il a tout pour rendre une femme heureuse. Et cependant, Ginevra le sera-t-elle près de lui ? C'est une terrible chose de remplacer une femme jolie, séduisante, très amoureuse, comme l'était cette petite Hélène, une femme aussi aimée surtout. D'autre part, Silvio a de très belles qualités morales. Sa situation de fortune est magnifique, son vieux nom, un des plus honorés de notre aristocratie. La pauvre petite Ginevra, sans dot ou à peu près, n'a guère à espérer d'autres prétendants en dépit de sa réelle beauté. Donc ce mariage me paraît malgré tout inespéré pour elle. Et ne peut-on raisonnablement penser qu'elle aura un jour raison du souvenir de l'autre et que Silvio l'aimera d'amour ?